Alors, merci beaucoup pour ce rappel de cet évangile de Jean qui nous parle d'un fait particulier, effectivement. J'aimerais qu'on puisse éteindre juste la lumière pour voir ce qui a marqué. Donc, ce matin, nous allons parler de trois faits cataclysmiques du jour de l'Éternel, issus de ce jour. Et nous en avons eu une petite présentation ce matin. Vous vous rappelez, nous sommes dans un livre qui s'appelle le livre de Joël et il a été écrit entre 300 et 520 avant Jésus-Christ, on ne sait jamais trop. Et ce qu'on a déjà pu voir, c'est qu'après le retour à Dieu collectif du peuple de Juda au chapitre 2, nous avons pu voir, et l'annulation du projet de Dieu de punir son peuple, le peuple s'est trouvé comblé de bénédictions. Le jour de l'Éternel que le peuple venait de subir à travers la sécheresse et les sauterelles laisse pourtant augurer d'un autre jour, un autre grand jour. Celui-là, par contre, interviendra dans un futur plus lointain. C'est une certitude. Même si Joël s'adresse au peuple d'Israël, son récit télescope l'histoire et nous amène peut-être aujourd'hui. Je dis peut-être, c'est que clairement, il vient nous emporter aujourd'hui de plein fouet. Que croyons-nous aujourd'hui ? Que nous pouvons vivre comme si demain n'était rien d'autre qu'un autre jour, et vivre cela jusqu'à la fin de notre vie ? Eh bien, peut-être que Joël désire nous alerter sur le fait que demain, ce sera peut-être la fin des temps. On a souvent rigolé dans les publicités de certains hurluberlus qui prévoyaient la fin des temps lors de l'an 2000. Pourtant, un signe bien réel est arrivé qui marque la fin des temps et la venue du jour de l'Éternel. Il y a déjà un petit moment, pourtant. Mais de quoi s'agit-il ? Si vous avez regardé l'introduction avec les jeunes, là, vous avez pu voir, vous pouvez déjà vous deviner. Je vous invite à lire avec moi Joël 3, chapitre 3, versets 1 à 5, pour le découvrir. Joël, c'est après les psaumes, avant Matthieu. Je vous laisse 5 minutes pour le trouver. Joël, chapitre 3, versets 1 à 5, où ça, dans certaines versions, ça apparaît au verset 28, lorsqu'il n'y a que 3 chapitres. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés. Comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Le premier fait cataclysmique qui marque la venue du jour de l'Éternel est la venue du Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous. Le signe bien réel qui marque la venue de l'Éternel est la présence de Dieu en l'homme. En d'autres termes, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Cette présence semble être hallucinante pour le prophète Joël, car elle ne touchera pas que quelques personnes, comme dans l'Ancien Testament, mais tout le monde. Sur toute chair est une mauvaise traduction pour nous aujourd'hui. Il vaudrait mieux traduire sur tous les hommes, y compris les femmes, d'ailleurs. Nous sommes en face d'un bouleversement quasi planétaire. Dieu fait sa demeure dans tous les hommes. Ou du moins, et nous le verrons un peu plus loin, qu'il l'a fait dans les hommes et les femmes qui veulent bien lui placer, lui laisser une place pour qu'elle y fasse sa demeure. Joël parle que l'Esprit sera répandu sur vos fils et vos filles, qui fait référence aux Israélites de l'époque. Mais ce n'est pas tout, il sera répandu sur les serviteurs et les servantes. Qui fait référence, même selon plusieurs exégètes, à la possibilité que cela toucherait les étrangers. C'est une nouvelle très étonnante pour le peuple de Juda. D'autres peuples pourraient être au bénéfice de la présence de Dieu dans leur vie. Pour le peuple de Juda, ce fait est peut-être encore plus déroutant, cataclysmique, que l'invasion des sauterelles et la sécheresse. Un jour du Seigneur hallucinant. Joël leur dit que cela interviendra après ce qu'ils viennent de vivre. Pourtant, pour nous, il semble que quelque chose a changé, car nous avons acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces gens ne sont pas ivres, disait Pierre, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le jour de l'Éternel est marqué pour Joël par la capacité de l'homme de connaître Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il n'y a pas de réelle nouveauté dans ce texte concernant l'œuvre du Saint-Esprit, mais par contre, un accent est mis sur la capacité de connaître Dieu personnellement. Le terme prophétiser pourrait signifier délivrer un message de la part de Dieu. Le prophète a les paroles de Dieu dans la bouche, littéralement, dans sa bouche. Et d'après Michée, c'est sous l'action du Saint-Esprit que le prophète était rendu capable de communiquer un message de la part de Dieu. Cette présence de Dieu en l'homme et la femme est tout simplement hallucinante, dans le sens où Dieu n'est pas un être qui reste lointain de ses créatures, mais au contraire, qui vient à leur rencontre. Qui n'a pas un jour dit « Mais où est Dieu dans ma souffrance ? Où est-il ?» Devant ces cris, Dieu nous demande de nous rappeler à nous qui sommes chrétiens, qu'il est présent en nous. Mieux que la présence de Jésus à nos côtés, c'est Jésus qui vit en nous, par sa présence, par le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère de la fin des temps, multiples fois annoncée par Jésus. L'Esprit inaugure cette nouvelle ère du royaume. En effet, le royaume de Dieu se trouverait présent par l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Croire que Dieu est avec nous, c'est le début du réveil. Mais un deuxième fait cataclysmique vient avec le jour de l'Éternel. Et ça, c'est le jugement. Beaucoup d'entre nous ont cru un jour, comme moi peut-être, que notre histoire s'arrêterait lorsque nous aurons creusé une tombe, on nous aura creusé une tombe et que l'on nous aura enterré. En même temps que cette pensée était à notre idée, elle était aussi notre souhait, notre désir. Car bien des fois, de notre vie n'était pas à la hauteur de l'exigence que nous pouvions en avoir. Qui n'a jamais été trahi par sa conscience ? Qui n'a jamais eu des pensées malsaines ? Qui n'a jamais enfreint les règles édictées par les autorités ? Par exemple, pour le code de la route, pour moi. Donc le fait de terminer le circuit dans un cimetière, au fond d'un trou, était réellement bien tranquillisant pour moi. Quand Marx dit que la religion est l'opium du peuple, moi j'aimerais rajouter que l'athéisme est un doux opium pour ne pas nous inquiéter de ce que la mort nous réserve. Toutefois, je ne sais pas si vous connaissez la morphine, ce puissant médicament qui n'est rien d'autre que de la drogue et qui produit un effet qui tranquillise le patient quand celui-ci souffre. Celui-ci oublierait presque sa douleur. Pourtant, quand le médicament ne produit plus les effets, celui-ci nous ramène tout doucement à la réalité de la souffrance. Sans être cynique, les gens se satisfont que la mort vient arrêter leur histoire pour se permettre de vivre sans se poser trop de questions. Cela leur permet aussi parfois les pires entorses à leur conscience. Je suis de ceux qui croient que la justice humaine, dans bien des cas, ne fait pas la lumière sur toutes les situations. En effet, les hommes, dès lors que le pouvoir les tient, sont assoiffés d'un désir de tricher, de gagner de l'argent et une reconnaissance associée. Nous ne ferons sans doute jamais la lumière sur les emplois fictifs de la mairie de Paris avant que Jacques Chirac ne meure, même s'il est en train de passer son procès. Nous ne ferons peut-être jamais la lumière complète sur les rétrocommissions de Balladur dans l'affaire des armes au Pakistan, même s'ils ne sont en train de faire le procès. Par contre, nous ferons peut-être la lumière sur l'affaire DSK, soit dit en passant, mais peut-être que ses avocats lui permettront de s'en tirer. Non, justice n'est souvent pas faite sur la terre. Et en discutant souvent avec mes amis non-chrétiens, eux me disent souvent que les faibles s'en sortent beaucoup moins bien que les riches. Toutefois, j'aimerais nous poser une question un peu plus personnelle. Ferons-nous la lumière sur nos vies, à chacun, et sur la somme de pensées horribles que nous avons eues aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière et tout au long de notre vie passée? Alors la mort, pour moi, met un terme à notre histoire, si elle met un terme à notre histoire, n'est rien d'autre que la plus grande injustice de l'humanité. La plus grande injustice, en ce sens qu'elle met tout le monde sur le même niveau. Et elle ne met jamais en lumière les vrais actes de chacun. C'est donc une vision, une croyance qui peut tout à fait convenir à ceux qui ont grugé les autres toute leur vie, sans être pris, bien sûr. Mais celle-ci ne semble pas celle que le prophète nous annonce. Non, pour Joël, Dieu interviendra un jour, et ce jour sera l'exercice de son jugement sur la vie, non seulement des autres, mais sur la nôtre. Selon la Bible, Dieu interviendra pour rétablir la justice, une justice qui fait défaut sur la terre. Et c'est là qu'il faudra être du bon côté, si je peux m'exprimer ainsi. Je ferai, nous dit le texte, paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Les images décrites par le prophète Joël sont un peu terrifiantes. Elles touchent la destruction, la disparition des conditions nécessaires à la vie. Elles ressemblent au jugement que Dieu a exercé sur l'Égypte et sur Juda. Ceux-ci sont donc le jugement final de Dieu sur l'humanité. Et en ce sens, vous vous rappelez peut-être du chapitre 2 qui disait « Car le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra subsister ?» Les catastrophes annoncées dans le chapitre 2 et leur ampleur ne laissaient pas beaucoup de place à la délivrance. Pourtant, le jour de l'Éternel est marqué par un troisième fait cataclysmique, et celui-ci est le salut. Joël annonce une possibilité, il ouvre une porte. Lisez avec moi le chapitre 3, verset 5. « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, sauvé. » Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés. Comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Mais le prophète ne reste plus sur cette question de qui pourra subsister. Non, il la devance. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé.
Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un verre à boire?
Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme l'a dit l'Éternel, nous rappelle l'oracle d'Abdias au verset 17. De même que Judas, après avoir subi un jour du Seigneur, vient d'obtenir la bénédiction par le moyen de son retour au Seigneur, il en est de même maintenant. Toutefois, une dimension nouvelle apparaît. Elle est présente dans le terme « quiconque ». Le salut n'est plus accordé sur une base collective en vertu de l'appartenance à une nation, comme au chapitre 2, mais sur la base individuelle et personnelle, chacun devant se tourner pour lui-même vers le Seigneur.
Merci beaucoup.
Ce mot de Joël vient introduire, détruire tout un pan de la théologie catholique qui énonce dans son article 846 de son catéchisme la chose suivante. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église, soit entre parenthèses l'Église catholique, en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut, or il nous devient présent en son corps qui est l'Église. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors comme ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ, comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. C'est le catéchisme du Concile qui nous écrit ça. Selon Joël, pourtant, nous sommes individuellement responsables d'invoquer le Seigneur pour être sauvés. Aucune église, aucune religion, aucune institution, aucun pasteur, ni personne ne pourra vous permettre d'avoir le salut. Seul Jésus-Christ est le médiateur qui vous permet d'aller à Dieu. Désolé, mais si vous croyez venir à notre église ce matin et pouvoir avoir accès à Dieu, c'est raté. Du moins par le fait que vous venez dans l'église. Joël vous demande de l'invoquer. Mais au fait, ça veut dire quoi ? The beans. Invoquer l'Éternel dans notre passage prend une signification particulière. Il indique se tourner vers le Seigneur, de faire appel à lui pour son salut. Plus qu'une prière superficielle, un acte de foi. Le terme hébreu nous invite à une attitude profonde, personnelle de retour à Dieu. Aujourd'hui comme hier, Dieu ne désire qu'une seule chose pour ceux qui ce matin ne le connaissent pas encore. Il désire que vous l'invoquiez, grosso modo, que vous l'appeliez à la rescousse pour vos vies. Mais ce n'est pas tout. Une promesse est associée à cette invocation. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, sera sauvé. La liaison grammaticale ne laisse planer aucun doute. Nous pouvons et devons être assurés que Dieu nous sauve si nous avons placé notre confiance en lui. Ne pas le croire, ce serait faire Dieu menteur, car par l'intermédiaire de Joël, il nous assure de la certitude du salut. Encore une fois, toutes les religions achoppent devant cette idée. Même l'athéisme, et plus précisément l'agnosticisme, nous ne pouvons être jamais être sûrs. Et pourquoi cela ? Car notre salut dépend de nous. Mais Sam, tu n'es pas conséquent avec toi-même, puisque comment pouvons-nous être réellement, percevoir réellement que l'invocation que nous avons adressée au Seigneur était avec une assez grande ferveur ? Et vous auriez raison de m'indiquer cela. Mais nous devons lire la fin de la phrase et la fin de ce verset. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Dieu a déjà appelé ceux qu'il a sauvés. C'est de la folie furieuse. Dieu nous l'a déjà dit par l'intermédiaire de Joël, et cela bien avant qu'il nous le dise par l'intermédiaire de Paul. Paul n'a rien inventé. On pourrait dire qu'il a tiré toute sa théologie sur l'élection de Joël. Et en hébreu, vous pouvez vérifier, le terme « appelé » est le même terme qu'invoqué. Vraiment intéressant, la responsabilité individuelle d'invoquer le Seigneur est associée à l'élection et le choix nécessaire de Dieu. Comme si la responsabilité individuelle ne pouvait aller qu'avec une élection individuelle. Mais de quelle élection s'agit-il ? De quel appel est-il question ? Le verbe « appeler » dans un contexte semblable dans le petit prophète Osée rappelle l'Exode. Le Seigneur a appelé Israël à sortir d'Égypte. Et cela ne signifie pas seulement qu'il lui a adressé une petite carte, une petite invitation pour sortir du pays d'Égypte, où il y avait des pharaons, si j'ose vous rappeler, avec une grande armée, mais aussi qu'il a effectué les actes rédempteurs, c'est-à-dire libérateurs, grâce auxquels la sortie du pays d'Égypte, de l'esclavage, a été possible. Car sans cela, le peuple aurait été incapable de répondre à son appel. Il en est de même aujourd'hui. Qui pourra se présenter devant Dieu et dire que s'il est devant Dieu aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses œuvres. Celui qui croit cela n'a pas saisi un mot de la grâce, le cadeau immérité. Nous nous satisfaisons de cette expression « cadeau immérité », « grâce gratuite », qui n'est rien d'autre qu'un pléonasme. Je monte en haut. Dans la mesure où un cadeau est forcément gratuit, forcément non mérité, pourtant Paul n'a pas jugé inutile de le faire et de nous le rappeler, et cela dans l'Épître aux Éphésiens. Aucun survivant possible, sauf si le Seigneur invite au salut et accomplit lui-même la rédemption, la délivrance. Le salut est révélé et rendu possible par l'initiative de Dieu. Sans ce Jésus, nous ne pouvons invoquer Dieu, nous ne pouvons aller vers Dieu. Seuls, nous n'avons pas les moyens pour aller vers Dieu. Nous pouvons essayer de faire tout ce que nous pouvons pour faire les choses bien, mais notre conscience nous trahira toujours, rappelez-vous tout à l'heure. Seul Dieu qui est à l'initiative nous assure d'un salut réel et certain. Une certitude magnifique fondée sur une part humaine, mais une part divine sans laquelle la part humaine ne sert à rien. En bref, un juste équilibre entre notre responsabilité pleine et entière, mais pas trop quand même, car celle-ci pourrait, si c'était le cas, nous faire croire que nous sommes au bénéfice du salut de Dieu par notre capacité. Or, cela est impossible. Ne l'oublions jamais. La fin est là. Elle est déjà arrivée. Nous avons découvert ce matin trois choses qui marquent la venue de ce grand jour, ce jour de l'Éternel. Elle est marquée par la présence de Dieu qui souhaite s'établir dans la vie de tous ceux qui le souhaitent. Cette présence n'est rien d'autre que l'un des faits les plus cataclysmiques, les plus importants de l'histoire de l'humanité, car elle nous ouvre l'accès à Dieu lui-même. Elle ouvre une ère nouvelle. Les théologiens parlent d'une nouvelle économie. Mais le jour de l'Éternel sera également un jour de jugement. C'est le deuxième fait cataclysmique de ce jour, comme nous l'avons vu, et ce jour touchera les hommes, tous les hommes. Toutefois, le salut, la délivrance de ce jugement est possible. Ouvert par la venue du Saint-Esprit, le salut est possible pour ceux qui invoquent le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, en découvrant ce texte, nous sommes en face d'une découverte magnifique et qui peut être un peu terrifiante. En effet, le jour de l'Éternel opérera un tri entre les humains. Et ce tri a déjà commencé sur la terre, entre ceux qui désirent l'invoquer, le suivre et l'accepter de tout leur cœur, afin que cette présence de Dieu puisse les dominer et régir leur vie, et ceux qui n'auront pas souhaité que celle-ci fasse leur demeure dans leur vie et auront préféré suivre leur propre voie et ainsi être leur propre Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. En effet, ce qui a été annoncé par le prophète Joël est accompli. Je ne fais que citer Pierre, le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, tous les hommes sont invités à se repentir, nous dit Pierre, et à invoquer le Seigneur Jésus afin qu'il puisse être sauvé. Je ne peux pas faire ce choix à votre place, même si j'aurais aimé. Pourtant, ce que je peux vous dire, c'est qu'une réalité magnifique est présente lorsque nous faisons ce choix. Non qu'il n'y aura plus de problème, ça serait un mensonge, mais parce que nous ne serons plus jamais seuls. Dieu est présent avec nous et en nous, et cela comblera tous les vides de notre existence. Je me rappellerai toujours de ce témoignage de ce peintre qui un jour, il avait tout pour lui, il était sportif, il avait de l'argent, une vie passionnante, remplie de plein d'activités. Pourtant un jour, tout s'est arrêté. Lorsqu'il est tombé d'un échafaudage où il réalisait ses travaux de peinture. Il est maintenant tétraplégique et il ne peut plus rien faire tout seul. Il a quasiment tout perdu et des envies de suicide ne lui ont pas fait que traverser son esprit. Pourtant, la seule chose qui l'a fait tenir, c'est Dieu et son secours dans cette épreuve. Car sa présence ne l'a jamais quitté. Au contraire, Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous l'invoquons, il nous sauvera c'est une certitude. Devant le jour de l'Éternel, nous sommes en face de deux options. Le salut ou le jugement. C'est à nous de choisir. À nous seuls. Je vous invite à prier. Père éternel, tu nous as placés devant ce texte et nous sommes bouleversés par le plan que tu as prévu. Tu vois que tu es venu, tu as envoyé ton esprit, tu l'as répandu. Tu as répandu ton esprit sur tous les hommes qui sont prêts à le recevoir. Et tu vois que cet esprit nous permet de pouvoir t'invoquer, de pouvoir être délivré du mal qui nous a servi. Et tu vois que, Père éternel, tu ne nous as pas laissé loin. Au contraire, tu es venu jusqu'à nous. Et ce matin, une nouvelle fois, tu appelles ceux qui ne te connaissent pas à t'invoquer. Vraiment, merci Seigneur. Merci Père éternel pour encore aujourd'hui, encore une fois, tu nous offres la possibilité dans nos vies de t'invoquer pour que tu nous délivres du poids du péché. Vraiment, merci Père éternel de nous appeler. J'inviterai ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur à pouvoir ce matin, s'ils ressentent vraiment Dieu agir et Dieu les appeler, de pouvoir lever la main et répondre à cet appel. Oui, je veux t'invoquer et moi j'aimerais prier pour vous. Oui, le Seigneur appelle encore pour le salut, pour la délivrance. Notre conscience est là toujours pour nous accuser. Vraiment, merci Seigneur pour ta parole qui est source de salut et de délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.